Alors, on va pouvoir passer au débat maintenant, si vous voulez dire ce que vous. Les questions que vous vous posez encore. Parce que je n'ai pas forcément répondu à toute la question, parce qu'elle est vraiment complexe.
Oui, il y a un petit point qui manque, c'est au niveau des recherches parapsychologiques scientifiques. Oui. Parce que je pense que ce n'est pas hasard s'il y a plus de, effectivement, de soi-disant voyants ou autres qu'au Moyen-Âge à l'heure actuelle. Je veux dire, parce que bon, il y a des tas de choses qu'on découvre qui sont, qu'on disait avant, de l'ordre du surnaturel, qui sont du naturel maintenant avec les outils, on arrive à le voir. Et que là, vous voyez, c'est aussi une porte. Je pense que c'est un peu à ça. Quand je vois par exemple le Père Brune et Rémi Chauvin, bon, ensemble, bon, c'est assez perturbant.
Oui, je suis assez d'accord. Mais
et pour la religion, c'est pour ça que j'attendais ce que disait la religion, parce que c'est vrai que bon, moi je connais un peu plus le milieu orthodoxe où il parle de l'Esprit Saint en tant qu'énergie et tout. Vous voyez, il y a peut-être aussi parfois un langage qui serait peut-être un peu plus à adopter. Vous voyez ce que je veux dire?
C'est une bonne remarque,
dis que la génération, c'est un peu ça aussi. C'est quoi? On va voir.
Les orthodoxes parlent des énergies du Saint-Esprit. C'est pas notre pneumatologie catholique, c'est pas notre façon de parler du Saint-Esprit.
Des chrétiens, hein.
Oui, les énergies dans l'orthodoxie sont des énergies théologales, ce sont pas des énergies physiques. Hein.
Ouais,
c'est ça, oui, non, mais bon, je sais bien.
C'est pas des énergies quantifiables.
Non, mais j'entends bien, mais ils en parlent, Non, puis il ne faut pas oublier quand même que les prêtres, avant, étaient les premiers médiums. Enfin, je veux dire, bon, et c'était moi, j'ai vu quand vous étudiez un peu l'architecture sacrée ou autre, vous étudiez un peu ça, moi, j'en ai entendu parler.
Vous savez, il y a un prêtre dans le diocèse d'Angers qui a écrit un livre sur les plans des cathédrales, des églises angevines. Son livre se termine par un panégyrique du pendule. Le chapitre de la fin était à la gloire du pendule, pas à la gloire de Jésus-Christ. Et donc ça laisse songeur, quoi. Hein.
Oui, non, mais je sais bien, il y a plein de enfin bon, il y a des choses quand même qui étaient.
Non, vous ne pouvez pas dire les prêtres sont les premiers médiums.
Enfin, non, je ne dis pas les premiers, mais il y avait beaucoup avant de prêtres qui guérissaient, mais pas de la même comme ça, enfin, pour aller, vous voyez, c'était...
Ah non, mais attendez, pour moi, un prêtre qui conjure le zona ou les brûlures,
c'est pas ça,
c'est de la magie.
Mais regardez, pour
désirer... Il le sait peut-être pas, parce qu'il a le don, mais c'est un don de magie.
Non, mais je veux dire
c'est pas spirituel.
Oui.
Mais j'en entends souvent parler, parce que ça existe, je sais très bien.
Oui, c'est sûr, ça existe.
Mais avant, on en parlait beaucoup plus avant, d'ailleurs, qu'ils imposaient les mains.
Mais à partir du moment où ça s'exerce sur un créneau spécifique, si vous voulez, et qu'il y a un résultat à la clé, ce n'est pas la prière, c'est la magie. C'est pas possible.
Oui, ça, c'est perturbant pour quelqu'un, vous voyez.
Je sais bien.
Je veux savoir ce que disait...
Je sais très bien, mais à partir du moment où vous avez un créneau spécifique avec une automaticité, donc un résultat à la clé, vous êtes dans le domaine d'un pouvoir magique, vous n'êtes pas dans le domaine de la prière chrétienne. Fût-ce un prêtre ou une religieuse.
Et alors, le père Tardif, parce que moi, je l'ai vu à Issoudun aussi, je suis allée le voir il y a quelques années, bon, bah, plus ou moins... C'était pas trop une démarche personnelle, mais j'accompagnais quelqu'un, et c'est vrai que, bon, alors c'est sûr qu'il s'appuie sur des prières. Bon, je vais lire un livre sur lui, sur la guérison. Ça m'avait intéressé, c'est vrai, mais... C'est pas facile de faire...
Le père Tardif a été guéri lui-même. Il était à l'article de la mort. Il a été totalement guéri par le Seigneur. Bon, à la suite de ça, il a témoigné de sa guérison. Et ça a été tellement fracassant que, finalement, il s'est totalement, investi dans un ministère de prédication et de prière pour les malades. Mais il a toujours voulu maintenir ensemble la prédication biblique, évangélique, et la prière pour les malades. Et je l'ai déjà dit l'an dernier, je crois, mais je le répète, il nous a dit une fois qu'il avait eu un retard d'avion, il était attendu dans un pays étranger, un stade entier était plein, l'évêque en tête. Et quand il est arrivé, l'évêque lui a dit, mon père, faites sautez la partie prédication, faites directement votre ministère auprès des malades parce qu'on attend depuis trop longtemps et les gens. Voilà. Donc il a prié pour les malades, il a dit ça a été catastrophique. Je ne recommencerai plus jamais. Parce qu'il a dit les signes de guérison, les guérisons sont des signes qui accréditent la parole, la véracité de la parole biblique prononcée, de la prédication évangélique. Donc il s'agit d'abord de prêcher Jésus, Jésus crucifié, ressuscité, d'appeler à la conversion, et ensuite de demander à Jésus de donner quelques signes de guérison s'il le veut. Et il les donne quand on les lui demande. Mais quand sa parole a été prêchée, il les donne comme confirmation de la véracité de sa parole. Et donc Et quand vous allez chez le guérisseur du coin, il ne vous annonce pas la parole de Dieu. Hein. Et il vous fait un petit machin, et puis il vous fait sa formule, et puis vous mettrez ça dans là-bas sur la cheminée hein, avant de partir. Et puis voilà, enfin, ça n'a rien à voir. Alors le père Tardif, qu'est-ce qu'il faisait? Après, évidemment, ça s'est tellement développé qu'il a fini par ne plus faire que ça. Ben, il prêchait là où on l'appelait. Et puis, il n'imposait pas les mots aux malades. Il n'avait pas d'entretien particulier. Dans une grande foule, il avait des paroles de connaissance où il disait « Le Seigneur est en train de guérir une personne de telle chose. » Voilà. Ensuite, il appelait les personnes qui avaient été touchées par ces paroles de connaissance à se faire connaître, de sorte à vérifier, et puis aussi à les faire entrer dans leur guérison. Mais voilà, il n'avait pas d'entretien particulier, pas d'imposition de main, pas de formule magique, évidemment, mais une prédication... Et une prière. Et on retrouve en lui ce qu'on retrouve dans les Actes des Apôtres, effectivement, où les apôtres prêchaient et guérissaient, les deux à la fois.
Et ils luttaient contre les stériles, parce que je me souviens qu'ils étaient intervenus par rapport à la réaction.
Ben bien sûr, parce que moi j'étais. Quand j'ai réussi à lui demander de faire une retraite dans le diocèse en 92, j'ai dû lui demander ça en 90, il a mis ça dans son petit bulletin interne. Je ne vous dis pas, mais mon téléphone a rougi pendant 6 mois, jour et nuit, parce que ça venait de tous les continents, des gens qui voulaient s'inscrire à cette retraite qu'il avait fait passer dans son... ce qui est encore plus ennuyeux, c'est que le téléphone de l'évêché a sonné quelquefois aussi. Mais je veux dire que je me suis dit, mais enfin, où est-ce qu'on est? Comment est-ce que les gens regardent le Père Tardif? Ça ne va pas du tout, quoi. C'est déplacé, enfin. Ils le regardaient comme le Messie, quoi. Donc on peut totalement dériver, quoi, c'est bon.
Je ne comprends pas trop votre différence là entre ce prêtre que je ne connais absolument pas, mais donc vous dites qu'il prie donc le Seigneur, et après il s'adresse à la foule et il dit les personnes pour se prier, etc., levez-vous. Et où est la différence entre ce prêtre donc, qui est investi de Dieu, n'est-ce pas, qui est catholique a priori, et un magicien qui prie aussi et qui dit voilà, vous êtes guéri. Où est la différence? Excusez-moi, hein. Où est la différence entre les deux?
Le magicien fait souvent ça chez lui, privatim, dans son salon,
où oui, à partir personne du moment à personne. Où il vous demande pas de payer.
Pareil. Pas de problème. Pour moi, c'est pas l'argent qui fait forcément la distinction, c'est exactement pareil.
Alors, comment...
D'autant plus que les dons...
Comment une personne peut connaître la différence entre ce que vous appelez un magicien et cette personne, ce prêtre, ou une autre personne qui serait
parce qu'il y a
charismatique
quand, il y a quand même il y a quand même un support biblique à la guérison divine, si vous voulez, au sens où quand on lit les évangiles, Jésus a guéri. Quand on lit les actes des apôtres, les apôtres ont aussi eu un ministère de guérison. Donc il y a un substrat biblique à la chose. Bon. Donc mais c'était toujours dans le cadre d'une annonce de l'évangile. Toujours. D'une annonce de l'évangile. Pas dans le cadre d'un intérêt à la santé de la personne d'abord. Pour moi, c'est ça qui fait la distinction. C'est que celui qui prie pour la guérison le fait dans le cadre de la prédication de l'évangile et dans l'annonce de l'évangile. Et il appelle les gens non pas à être guéris, mais à se convertir à Jésus. Annexement, il priera pour leur guérison, ou il priera pour la guérison de gens que le Seigneur veut guérir, mais il prêchera la conversion à l'évangile. Tandis que le magicien de mon quartier, lui, il s'intéresse à ta petite santé, à ma petite santé, puis à mon bien-être, on est dans une perspective de bien-être et de recouvrement de ma santé. Pas question de vie spirituelle là-dedans, ni de conversion, ni de Jésus, ni de quoi que ce soit.
D'accord. Et moi, je suis allée récemment. Ça devait être septembre, non, octobre ou novembre, à une messe d'une personne. Alors, du coup, vu ce que vous dites, je ne sais plus si c'est un magicien, ou si c'est quelqu'un qui effectivement a un don ou un charisme, parce que je n'ai pas bien compris la différence entre les deux. Je vais réétudier ça. Et où il y a. J'y suis allée avec des personnes malades, etc., qui se disaient investies de l'Esprit Saint, catholiques, chrétiennes, pratiquantes, et qui m'a conviée à une messe pratiquée par un prêtre chrétien, catholique. Donc, est-ce que vous confirmez qu'effectivement, il y a des messes qui sont pratiquées en dehors d'une église catholique, chrétienne, en Sarthe?
C'était dans la Sarthe?
Oui, c'était en Sarthe.
Je sais pas.
Vous savez peut-être de qui je parle.
Non.
Du tout. Et c'était un prêtre catholique.
Mais alors, et qu'est-ce qu'il faisait, ce prêtre?
Ah ben, il a fait une messe.
Mais pourquoi faire?
Non, pour guérir personne, mais le jour des morts, hein, c'est ça? C'était à la Toussaint.
Mais il faisait ça pourquoi?
Parce que cette personne, cette magicienne, on va employer ce mot-là, parce que je ne suis pas sûre d'employer les bons termes, reçoit des personnes, parce qu'elle elle dit qu'elle soigne, et donc elle se dit avoir ce don par l'Esprit Saint, par Dieu. Et il y a eu une messe de pratiquer, et elle a 4 messes par an. Elle n'intervient pas du tout, et c'est un prêtre catholique.
Qui n'est pas du diocèse, si.
Ce qui est du diocèse, ça je ne sais pas, mais elle dit qu'il est là.
Chez elle, en fait.
Elle a un hangar derrière chez elle où il y a des messes.
Ah oui,
et cette année, elle avait 4 messes accordées.
C'est pas dans une église.
Ah non, c'est chez elle dans un hangar aménagé.
Quel est le but?
Quel est le but? D'amener l'Esprit Saint, d'amener la parole de Dieu et de Jésus. Et donc, ces personnes sont catholiques ou non catholiques.
C'est presque des messes
noires. Non, du tout. Moi, j'y ai assisté. On peut, comme on parle de magie, on peut aussi penser ce genre de choses.
C'est des freelances.
Mais je veux dire, on se croirait dans une église. Il y a tous les signes, effectivement, de la chrétienté. Et ce prêtre.
Mais vous pouvez nous le dire, il n'y a aucun prêtre qui fait des.
Je ne connais pas son nom, c'est pas Voltaire, j'ai absolument pas retenu son nom.
Oui, non, c'était sans doute quelqu'un d'extérieur qui avait été invité chez cette personne-là.
Non, mais avec l'habit, avec les paroles, je veux dire.
C'est très possible.
Il y a eu l'Eucharistie.
Mais c'est sans doute. C'est sauvage. C'est un rassemblement sauvage.
Bah, elle ne le présente pas comme ça, et il ne se présente pas comme ça.
Alors, la dame, elle est magicienne, elle fait quoi?
On la paye ou on ne la paye pas, ou on lui amène un sac de croquettes, ou deux, trois tomates de son jardin.
Tout est pour tout.
Non, elle ne s'est absolument pas payée. Non, mais c'est quelqu'un qui, effectivement, dit avoir un don de magie. Je ne vois pas ce qu'il se fait rire. Et c'est cautionné par
des croquettes. Ah, ben, c'est parce qu'il y a des chiens, quand même.
C'est cautionné par un prêtre, si vous voulez.
C'est vraiment un prêtre. Il a peut-être l'habit, parce que ça, c'est bon.
Alors, il a l'habit, il a il y a l'hôtel.
Mais vous avez raison de poser la question.
Moi, je vais régulièrement. Et chez les catholiques et chez les protestants, et je peux vous affirmer qu'il n'y avait rien de magie noire là-dedans,
et
que c'était une messe absolument comme toutes les messes à laquelle j'assistais, hein, que ce soit chrétien ou protestant.
Mais cette dame-là, elle a pignon sur rue, on la voit dans l'annuaire.
Elle n'est pas du tout. Elle ne fait jamais de thème. C'est de bouche à oreille, Et elle ne fait absolument... Vous ne la voyez pas dans les magiciens, dans les marabouts, dans tout ça. Hein. Ah, jamais. Elle est connue en dehors de la Sarthe. Où il y avait des gens qui étaient présents à l'Assemblée avec qui j'ai discuté, qui venaient même des Vosges.
Ah, ça fait loin, ça, oui.
Des Vosges, oui, tout à fait.
Une réputation de guérisseuse, quoi.
Oui, effectivement.
Oui, oui, bah, il se peut très bien qu'elle ait trouvé un prêtre qui accepte de venir célébrer la messe. Mais ça, c'est en dehors de toute autorisation, c'est le problème. Il n'a pas l'autorisation de l'évêque pour venir dans le diocèse.
Bon, bah, a priori, évidemment, elle le présente comme disant que...
Alors, non, c'est
possible. J'ai pas amené le document, puisque je pour moi, oui, c'était non, le mois dernier, la maladie, donc je n'ai pas amené le document.
C'est là que, justement, on rentre dans la fabrication de faux, après, parce que c'est pas possible de... Si c'était officiel, ça serait su, et puis...
Et cette dame-là, vous l'avez connue comment ?
Par bouche à oreille. Par bouche à oreille. Et
c'est souvent comme ça, d'ailleurs.
Non, mais je veux dire...
Oui, mais c'est
moi,
ça qui écarte, qui éloigne les...
Voilà, médium, par exemple, un médium que vous voyez ou vous regardez à voyance, vous arrivez, on vous dit c'est 30 euros, 50 ou 100 ou 250 de la consultation. Cette dame, quand on vous dit, mais de toute façon, si vous y allez, elle vous fait du bien ou elle vous fait pas du bien, des fois ça marche pas toujours, mais il n'y a pas de prix. On est bien d'accord. Si vous n'avez pas d'argent, vous ne lui donnez rien, elle ne vous demandera rien.
Il suffit d'avoir des croquettes, quoi, pour le chien.
Non, mais c'est le principe de base de ceux pour donc qui se spécialisent d'avoir un.
Voilà. Donc, où est-ce que vous voyez la différence entre cette dame qui vit dans la misère, parce que je peux vous assurer qu'elle vit dans la misère. Je ne connais pas son compte en banque, ça on est d'accord, mais qui physiquement, parce qu'en plus je connais son plombier, et je peux vous assurer qu'il a beaucoup de mal à faire payer ses factures. c'est pas quelqu'un qui ou alors elle garde son de côté, je ne sais pas, derrière des piles de linge peut-être, je ne suis pas dans ses placards, mais je veux dire, cette personne ne fait pas de publicité. Et elle se dit inspirée de Dieu. Donc, c'est là où je dis, moi, comme cette dame-là qui est à côté de moi, où est-ce que vous mettez une barrière entre cette personne qui, effectivement...
Parce que là, c'est centré sur la personne, si vous voulez, forcément. C'est elle qui a invité le prêtre, et c'est elle qui prétend avoir un don qui vient d'en haut. C'est centré sur la personne. Et ce que je critiquais dans la façon dont les gens regardaient le Père Tardif, c'est que précisément, ils le regardaient comme le Messie, justement. Il faisait une fixation sur la personne qui me semble, moi, totalement délirante. Quoi. Mm-hmm. Il faut absolument couper court à tout ce genre de choses.
Parce que prêtre, c'est bien un prêtre, on est bien d'accord. Moi, je ne le connais pas, mais
c'est possible que c'est catholique. C'est possible que ce soit un faux, parce que ça existe. Hein.
Mais là, on parle du Père Tardif.
Ah, Père Tardif, oui, c'est un vrai. Oui.
C'est un vrai prêtre.
Oui, tout à fait. Oui.
Donc,
oui, mais lui, il était universellement connu, et de toute façon... Pour le faire venir dans un diocèse, il fallait obtenir l'autorisation de l'évêque. Mmh. Ça passait quand même par l'évêque, si vous voulez. Moi, j'avais demandé à l'évêque à ce moment-là. J'aurais pas fait ça comme ça sans demander à l'évêque. Donc, les évêques correspondent entre eux, et voilà.
Et il y a d'autres choses qui m'ont interpellée dans ce que vous disiez. Je ne sais pas si on a du temps ou pas. Vous avez dit au début de votre discours... La communication avec les esprits diaboliques, c'est du spiritisme. Mmh. D'accord ?
Donc, la communication avec les esprits, prétendus.
Voilà, avec
les morts.
Les esprits. Ouais. Donc ça, c'est du diabolique. Enfin, c'est diabolique, ça veut dire esprit avec le diable.
Oui.
C'est ça ?
Oui, tout à fait. Ouais.
Alors, d'un côté, ça veut dire que vous reconnaissez qu'il existe des esprits.
Oui.
Mais ils sont diaboliques. Ça veut dire que les esprits n'existent pas.
Ah, je peux dire ça non plus.
D'accord.
Il y a les anges, serviteurs de Dieu, mais on ne communique pas avec eux, et on ne cherche pas à communiquer avec eux, si vous voulez. C'est peut-être ça qui différencie, c'est que si j'ai dit que c'était du spiritisme et la communication avec des esprits mauvais, c'est parce que les gens veulent communiquer avec des morts, d'abord. Mm-hmm. Hein. Mais derrière les morts, en fait, puisqu'on ne peut pas communiquer avec les morts, ce sont des esprits diaboliques qui travaillent et qui s'expriment. Bon. Mais il y a assez peu de gens qui cherchent à correspondre avec les anges, avec les bons esprits, et avoir des messages venus d'eux. Mais s'ils le faisaient, on serait un peu dans la même configuration, c'est-à-dire qu'on serait dans une configuration de divination, pour chercher à savoir des choses. pour s'arranger des trucs. Pour, on n'est plus dans la foi. Ce qui nous est demandé, c'est de vivre par la foi en Jésus, pas d'avoir des révélations et des...
Oui, mais enfin, je ne sais pas, à partir de, par exemple, un enfant, enfin, une mère avec son enfant, par exemple, ou un enfant avec sa mère, ou son père, ou je ne sais pas, une petite nièce qui est décédée, enfin, par exemple, là, à mon avis, est-ce qu'il y a vraiment une quête de connaître un avenir ou de demander quelque chose?
C'est un refus de faire le deuil.
Ah oui, ça c'est
déplacé.
Ça retient la personne.
Non, ça ne retient pas la personne. Ça, c'est encore des représentations qu'on se fait, mais en tout cas, c'est un refus de faire le deuil, et puis c'est une façon malsaine de continuer à entretenir une relation qui était saine. C'est une façon malsaine de vouloir poursuivre à tout prix, de mettre la main sur la relation et de la garder, alors que il faut cesser sous la forme où elle était. Maintenant, sous une nouvelle forme qui est plus spirituelle, il n'y aura pas de communication de même nature. Ça, c'est pas possible. Ce n'est pas possible.
Il y a une influence des philosophies orientales, j'ai bien philosophie, par les religions. On dit souvent que les esprits, effectivement, ceux qu'on voit, vous appelez ça diabolique, ce sont les premiers, enfin, je veux dire, sur les premiers plans et tout, enfin, je veux dire, que normalement, effectivement, il y a tout un autre cheminement. Et c'est ça, l'Église catholique n'aborde pas du tout tout ça. Quand les gens cherchent, ils vont voir les
affaires orientales. On essaye de faire ça, mais le domaine est vaste. Oui,
sans vouloir communiquer, simplement pour un peu...
Oui, mais toute la logomachie qui est employée aujourd'hui pour nous dire qu'il y a des... qu'on a différents corps, astral, subtil, machin, qu'il y a différents plans. Vous savez,
On le sait, ça veut dire quoi?
Je veux dire que c'est pas...
Mais non, c'est pas acquis. C'est pas acquis, ça.
Ça se demande de plus en plus scientifiquement, ils vous font des... Mais ça, c'est secondaire, je veux dire, c'est pas...
Je ne pense pas.
On est dans
quelque chose qui est virtuel. On est dans quelque chose qui est virtuel, dans cette anthropologie occulte où on a des corps superposés et où précisément on va rentrer en communication avec peut-être des entités qui ne sont pas bonnes. Enfin, je ne sais pas quoi, il y a tout un vocabulaire.
Mais là, il y a un espèce scientifique qui est peut-être, qui est peut-être faux, qui est détourné. Mais bon. Depuis ces expériences avec les Fekirians, on appelle ça, et ils arrivent quand même à faire des photos, je veux dire, vous voyez, ils arrivent...
Les Fekirians, tu connais?
Ça serait censé montrer le corps éthérique ou le corps astral, mais c'est pas...
On voit bien qu'il y a des
c'est
photos...
C'est pas démontré à ce point.
Les Fekirians montrent une certaine radiation.
Oui, voilà, autour des...
Mais qui peuvent... Et vous faites une photo en infrarouge, qui détecte l'infrarouge. Vous regardez dans une lunette infrarouge, vous voyez des halos de la même manière. Est-ce que ces halos sont le corps éthérique ou le corps astral?
Ah, mais moi, personnellement, ça m'est égal, puisqu'on les appelle, comment on les appelle et tout.
La littérature ésotérique se sert de ces effets Kirlian pour prouver, mais ça ne prouve rien, ça prouve simplement qu'il y a une chaleur qui se dégage du corps.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que peut-être que maintenant, effectivement, on est peut-être plus en recherche, enfin, je veux dire, donc c'est plus difficile d'accepter, enfin, je parais langage comme ça.
Je suis bien d'accord que la doctrine chrétienne apparaît extrêmement sèche au regard de toutes les choses bizarroïdes qu'on peut nous servir par ailleurs.
Encore que quand on dit le
credo... Moi, j'assiste pas non plus, si je suis là, c'est pas beaucoup.
Quand on dit le credo, on dit qu'on croit en Dieu, créateur du monde visible et invisible. Et dans le monde invisible, l'Église catholique croit aux anges. Un jour, Jean 23 avait fait un enseignement et il dit « Aujourd'hui, on va parler de choses extrêmement concrètes » et il commence « Les anges gardiens ». Et donc, tout le monde avait explosé de rire. Mais je crois qu'effectivement, nous avons des bons anges qui nous inspirent. Mais attention, nous n'avons pas à instrumentaliser le monde des esprits. Donc, précisément, là, nous instrumentalisons le monde des esprits. Quand on s'adresse à son ange gardien, on lui demande de nous guider dans nos pensées, dans nos actions. Mais à aucun moment, on va l'instrumentaliser pour lui dire ce que nous devons avoir. Il nous aide à faire la volonté du Seigneur. Ce n'est pas la même chose.
Oui, non, mais moi, je parlais simplement d'outils, enfin bon, qui maintenant permettent de détecter certaines choses. Il y a des expériences qui sont faites.
Oui, mais si vous voulez,
on est aussi dans la recherche du cerveau et tout. Je veux dire, ça s'englobe, ça s'inscrit.
Si vous prenez Père Brune, si vous prenez Père Brune comme référence, par exemple, le type de publication du Père Brune.
Oui, c'est pas rien non plus.
Moi, ça me semble extrêmement.
C'est pas à la télévision qu'on voit.
Je sais bien. Et par ailleurs, dans ce qu'il dit, tout n'est pas faux. Enfin, je veux dire que c'est un homme qui est sensible au spirituel. Il est sensible à la quête spirituelle des gens d'aujourd'hui. Donc, c'est.
Excusez-moi, mais qui est Père Brune?
C'est un Sulpicien. Électron libre qui a peut-être 80 ans maintenant.
Oui, un électron libre.
Oui, oui, parce que j'en ai pas avec ses confrères sulpiciens. Ils m'ont bien confirmé qu'il était tout seul dans son coin. Quoi. Mais il a son best-seller, c'est Les Morts nous parlent. Il a écrit son best-seller, Les Morts nous parlent. Le titre de son livre, Les Morts nous parlent. Alors il y en a un ou deux volumes. Il a beaucoup travaillé la question des enregistrements magnétiques, de voix venant de l'au-delà, etc. Donc,
et où est-ce qu'il les a trouvés, ces enregistrements? Comme ça
Non, mais à partir de... Il a voulu faire des expériences à partir de en enregistrant les ondes, je sais pas quoi, sur des fréquences particulières. Donc, il obtenait des bruits, et à certains moments, il y avait vraiment des paroles audibles. Donc, il croyait avoir... être entré en communication, précisément.
Mais il savait avec qui?
Je suis pas sûr.
J'ai vu dernièrement encore à la télévision, ça, j'ai vu une personne, là je trouve ça assez aberrant, mais enfin bon, comme je suis curieuse, j'ai écouté. Il y avait toute une assemblée de personnes, elle intervenait, votre fils ou votre oncle, enfin, je sais pas, voilà, vous dit ceci, cela. Et puis apparemment, ça avait l'air de toucher les personnes, ça avait l'air d'être parfois exact. Bon. Alors bon, c'est tout. Mais moi, je suis pas, vous savez, je suis pas.
Mais il y a de nombreuses émissions, c'est vrai. Toutes les semaines, il y a une émission sur une des chaînes. Parce que quelques fois que je regarde le programme, je dis, tiens, encore un truc de paranormal.
Souvenez-vous de ce que je vous disais. Écoutez bien, le vrai médium est capable de vous dire des choses parfaitement vraies sur votre passé et votre présent. Donc, dans une assemblée, etc., il est capable effectivement de faire un peu comme faisait le Père Tardif, d'annoncer des choses tout à fait vraies sur le cas de certaines personnes, parce qu'il y a accès par viol psychique, par des entités, avec le concours d'entités diaboliques, ce qui veut dire que ça sera des séquelles chez les personnes qui sont sondées, mais si vous voulez, on est là au niveau de la prestidigitation et de la frime. Après ça, ce qu'il pourra dire sur l'avenir, ça n'a aucune valeur. Sauf s'il contraint les personnes par des liens forts. Mais...
Et comment on se dit qu'on laisse cette personne, le Père Brune, je pense à lui, par exemple, on le laisse normalement,
dans l'Église, c'est la grande liberté des enfants de Dieu, mais je pense qu'il a dû quand même être plus ou moins rappelé à l'ordre.
C'est contradictoire à la doctrine.
Ben oui, mais on n'a pas...
Mais c'est ça qui est au niveau de l'Église catholique, ils sont pas...
Il n'y a pas que dans l'Église catholique. Faut-il les réduire à l'état laïque parce qu'il a des positions bizarroïdes?
Il continuera, même si il a l'état laïque.
Oui, c'est bien, c'est ça. C'est sûr que c'est compliqué, je sais très bien. Quand une personne commence à dériver... Mais c'est vrai aussi d'un théologien, si vous voulez. Quand un théologien commence à avoir des théories complètement fumeuses, alors là, peut-être que la Congrégation pour la doctrine de la foi peut le rappeler à l'ordre. Mais s'il persiste, ça a bien été le cas de Hans Küng, par exemple. Bon, à un moment, on lui a retiré son enseignement en université. Dreverman, l'évêque de Paderborn, l'avait réduit à l'état laïque, je crois bien, non? Me semble-t-il, oui. Mais ça, c'est des cas extrêmes où la personne s'est entêtée, quoi, c'est sûr.
Par contre, vous reconnaissez que les sorts et les maléfices existent. Mais pour vous, c'est le diable. Ça, par contre, vous le reconnaissez dans vos paroles.
Maléfices, oui, ça existe. Oui. C'est la magie noire, c'est le domaine de la magie noire. Donc, d'un rituel accompli pour nuire à une personne. Et ça lui pourrit la vie, oui. Et ça existe, oui.
Et donc, à partir de là, voilà, vous, ce que vous prêchez, c'est l'exorcisme, c'est-à-dire la magie blanche, si on peut dire ça.
Ah
Non, qui est déguisé. Bon, dans le cas de la magie noire, évidemment, on s'adresse directement à Satan pour avoir des bénéfices pour soi ou pour faire du mal à d'autres. Et dans le cas de commandes, de rituels de magie noire, effectivement, ça pourrit la vie des personnes sur qui ça tombe, parce que ça vient d'extérieur, et voilà. Mais on est dans le domaine diabolique, oui.
Et donc, mais c'est pas de la magie. Ça
Ah, ça, c'est difficile. C'est difficile parce que ça ne relève pas directement de l'exorcisme à proprement parler. Cette personne n'est pas possédée. Elle se trouve brusquement avec des symptômes qui lui arrivent dans son corps ou dans ses affaires et qu'elle doit contrer. Il faut un combat spirituel assez intense. Il faut que la personne se mette en ordre de marche pour un combat spirituel, se mette dans la grâce de Dieu, se mette à prier fortement et puis fasse une prière de protection tous les jours. Etc. Soit suivi spirituellement par quelqu'un de compétent pour ça. C'est pas simple. C'est dans les cas les plus enquiquinants, si j'ose dire, parce que précisément, la personne n'étant pas possédée, un exorcisme n'est pas forcément pertinent par rapport à ce type de cas. Enfin, donc c'est pas si simple que ça, quoi. Mais ça existe, oui. Malheureusement. Ça existe très fréquemment dans le cadre de l'entreprise. Il y a des règlements de compte avec ces moyens-là. Et très fréquemment dans le cadre de des ruptures amoureuses ou des cas de divorce où on fait ça contre l'ex, entre guillemets. C'est très fréquent.
Et donc ça, pour vous, c'est du paranormal, surnaturel
Ah ben, un rituel de magie, c'est diabolique.
C'est diabolique.
Ça peut se présenter ensuite dans les effets comme paranormal. C'est utiliser des formes paranormales, mais c'est par derrière, c'est diabolique. Ouais. Pardon, peut-être qu'on arrête.
Une dernière question concernant les charismes. Parce que vous avez dit qu'a priori, on a tous des charismes. Est-ce qu'on a moyen de savoir nos propres charismes sur le moment? Parce que ça peut nous être utile. Admettons, si on sait qu'on a un charisme de prière, ça peut nous, on va peut-être plus intercéder pour les autres. Si c'est de la parole, on va plus savoir qu'il faut qu'on annonce la bonne nouvelle, etc. Quoi.
Non, c'est les autres qui peuvent nous dire.
Ah bon, d'accord.
C'est pas soi-même.
Donc il y a moyen de le savoir.
Oui. Mais ça suppose qu'on soit transparent en église avec les autres. Mais c'est les autres souvent qui nous disent « Ah, dis donc, t'as un don là, je sais pas si tu as rendu compte, mais t'as vachement aidé là quand t'as fait ça. » On se dit « Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait ?»
D'accord.
Ouais. Oui, tout à l'heure, vous avez dit... Il y en a qui ont un charisme et qui le gardent pour eux et qui le redistribuent pas.
J'ai dit ça?
Non, ou j'ai mal compris?
C'est ça aussi.
C'est la différence entre les deux, c'est ce que j'ai rien compris tout à l'heure.
Entre quoi et quoi?
Ben, le charisme et l'autre. Il y en a un qu'on donne et l'autre qu'on
a pour soi. Dans ce
donc, non, voilà. Donc le charisme, on le connaît.
Ah, oui.
Le charisme, on le connaît pas.
Le charisme, les autres nous le font connaître, ils disent, toi, t'as un charisme. Quand t'as dit telle chose publiquement, on sentait que ça venait vraiment de Dieu. Donc, peu à peu, on prend conscience qu'on a reçu un charisme, parce que les autres font miroir pour nous le dire. C'est les autres qui le repèrent et qui nous le disent. Et à ce moment-là, on comprend qu'on l'a reçu, et donc on apprend à se dépatouiller avec, à le mûrir et à l'exercer. Pour le bien de l'Église.
C'est vrai qu'on se rend compte, par exemple, dans la paroisse, qu'il y a des gens qui sont plus aptes à recevoir, par exemple, les familles en deuil.
Voilà.
Et d'autres qui sont peut-être plus enclins à faire le pâté.
Mais ça, ce sont des aptitudes, c'est pas des dons, ça.
Ça peut être des aptitudes. Je trouve que c'est un don quand même, quelque part. Une aptitude.
Une personne dans une équipe de sépulture peut avoir un don de compassion. Oui. Qui vraiment aide les personnes en deuil, quoi.
Oui, ça peut être de l'empathie aussi.
Oui, voilà.
Ça peut être de l'empathie, mais ça peut être aussi un don spirituel, peu à peu.
Compétences.
Oui, bah, c'est sûr qu'il faut examiner.
On va voir je ne sais pas, dans le café, avoir un don pour parler aux enfants, pour...
je sais pas. Oui, qui n'est pas uniquement de la pédagogie, ou qui n'est pas uniquement... Mais c'est un don spirituel, ça vient du Saint-Esprit. Donc il faut effectivement l'élaguer de ce qui pourrait être trop humain pour bien voir où est le don. Quoi.
Il faut prier aussi pour ça.
Mais c'est très intéressant quand dans une paroisse ou dans une communauté chrétienne, on fait l'inventaire des charismes. Alors, en le faisant, on trouve l'inventaire aussi des dons naturels que les gens ont reçus, qui apparaît. Puis aussi, on s'aperçoit qu'il y a des richesses qu'on n'était pas regardées de si près et qui existent. C'est très intéressant. Parce qu'à ce moment-là, ça peut permettre de les faire monter plus avant, quoi, pour l'utilité de...